Ça y est, nous sommes mardi soir. Dehors, c'est un temps à regarder Téléchat. Vous savez, cette émission des années 1980, dans laquelle des sonorités jazz venaient clôturer un journal étrange. La fin était digne d'un film noir. Et elle est restée dans les mémoires. Pour l'heure, vous n'avez, on l'espère, pas de bras cassés. Mais cassé, vous l'êtes peut-être. Alors, vous vous êtes traîné jusqu'à chez vous, attendant avec impatience la libération de vos pieds. Maintenant, affalé dans votre canapé, vous nous espérez, et nous sommes là, confinés mais bientôt libérés. Vous êtes bien à l'écoute de Radio G sur le 101.5 FM, et vos habituels complices sont avec vous, Luc, Toups, et votre serviteur zélé Julien. Bonjour les amis.
Bonjour Julien. Bonjour à tous.
Bonjour Julien. Ou peut-être bonsoir.
Vous avez vu, cette fois, je n'ai pas oublié de demander un bonjour enregistré à mes chroniqueurs. C'est l'heure de Calibre 58, une émission de bien mauvais genre. Et maintenant, générique maestro.
Mondialiste criant, notre révolte est que tous les jokers enlèvent leurs culottes. Il y a des satanistes, des cadres employables et encore des puristes, des comptables tirables. Notre baumette, elle s'est pute. Et à toi qui es dans le prêt, un coq noir dans le calbut réveillera tout saigner. Citoyen coiffé de cornes, cuisez donc dans le cul, car le sénateur Horn d'un rictus sans mucus.
CD par le festival Avray Les Encres Noires. Nous étions pour le coup retournés en 2004. Le groupe s'appelle Les Super et comme il vous l'annonçait en introduction, Patrick Bowman, alias Mr. Peabody au Serpent Noir, avait écrit les paroles. Pour cette deuxième émission de la saison, nous allons maintenant découvrir le romancier et traducteur Denis Gallos qui vient de sortir aux éditions Asphalt Hakim, un road movie court dans tous les sens du terme et qui est particulièrement intéressant. Évidemment, sinon je ne vous en parlerai pas. Pour sa chronique « On n'achève pas les classiques », Luc s'est attaché à La bête qui sommeille de Don Tracy, un roman noir de 1937. Dobbs, lui, entamera en musique sa chronique, sa jazz baby, avec un petit morceau qu'il a ressorti d'une jukebox. Et puis, nous causerons tous les trois du film Duplomb pour l'inspecteur de Richard Quinn avec Kim Novak et Fred McMurray. Le film ressort chez Sidonis dans la collection Film Noir. Mais revenons à ce très cher Hakim. Alors, Hakim, c'est un roman court et dense dans une langue à l'oralité présente qui s'attarde sur un trentenaire, auteur de bandes dessinées en devenir, qui largue femme et enfants à l'aéroport, à moins que ce ne soit l'inverse, avant de retourner travailler chez lui. Mais dans le RER qui le ramène, il découvre en face de lui un sac abandonné. La paranoïa ne fait pas que le guetter. Il subodore la bombe. Et s'il ne souhaite pas mourir, il ne souhaite pas non plus être le coupable idéal avec sa barbe, son teint arabe, ses bas de jogging et son stress apparent. La suite est donc un road movie nerveux entre l'aéroport et une petite ville de banlieue où il retrouve un vieux pote complètement barré avec qui il fume et boit. Dinis Gallows est un néo-romancier. Il a sorti il y a quelques années Gokan, un thriller tarantinesque au cherche-midi. Dans ce nouveau roman, il va puiser à la fois dans son inspiration et chez les auteurs qu'il traduit et qui donc l'influence. Il a l'étrange particularité de traduire à la fois le portugais et l'anglais, et chez les anglo-saxons, sa préférence semble écossaise puisqu'il traduit les romans d'Irvin Welsh. Eh bien, il y a quelque chose de Trainspotting dans ce Hakim. Mais, au fait, qui est vraiment Hakim ?
Hakim, il a été construit pour être un Français musulman d'origine maghrébine absolument pas représentatif, ou du moins absolument qui correspondrait absolument pas à l'image qu'on s'en fait et l'image que les grands médias français donnent de genre de personnes, en fait, de cette catégorie de personnes, de ces Français de deuxième catégorie, d'origine maghrébine et de confession musulmane. Donc il est banlieusard sans vraiment l'être. Il est prolétaire, mais il bosse pas à l'usine. Voilà. Et c'est un ancien pilier de rugby, mais c'est un gentil, et c'est un ours, et c'est un tout doux. Voilà.
Il a pour vocation de percer dans la bande dessinée, ce qui est quand même pas anodin pour un personnage de fiction. Et de temps en temps, dans le roman, on découvre des trames du scénario, et on découvre surtout que ces trames du scénario, c'est ce qu'il est lui en train de traverser à ce moment-là comme histoire, mais dans un monde futuriste. Pourquoi ?
Ça, c'était plus dans l'économie du personnage. C'était sa BD avec sa famille, avec ses deux gamins et sa femme, c'est un peu toute sa vie et ses seules passions. Et la BD, c'est pour lui dans le texte aussi, c'est justement dans ses monologues, il se le dit à lui-même, c'est sa façon de déjà de prendre du plaisir, c'est ce qui lui amène du plaisir dans la vie, et c'est ce qui lui permet de se protéger quand la vie correspond pas tout à fait à ses attentes. Et c'est assez souvent, et d'autant que c'est vrai, il est assez sujet à une parano aiguë et assez forte. Donc il a ce réflexe de, comme énormément de personnes, de se plonger dans la fiction quand la réalité lui va pas. Et là, en l'occurrence, c'est la BD, c'est du soap space opéra en BD et voilà, de la SF en gros.
Quand on débute ton livre, au début on est un petit peu surpris parce qu'il y a un style qui est présent. Ça rappelle un peu, moi ça m'a rappelé Petit Quinquin, je sais pas si t'avais vu cette série sur Arte, où au début franchement t'es assez hermétique au style parce que tu dis non mais j'y arriverai jamais, et puis tout d'un coup tu comprends que t'es rentré dans sa tête et que le style tu l'as approprié, et là tout défile naturellement. Qu'est-ce que tu voulais faire avec ce style ?
Ça fait plaisir déjà, merci. Et tu veux parler des contractions de mots ?
Oui, il y a plein de contractions de mots, il y a plein de voyelles qui disparaissent, il y a des consonnes qu'on rajoute, il y a aussi évidemment une masse de verlan dedans qui vient se mêler à tout ce maelstrom. Ouais. Voilà, donc c'est... j'imagine que tu es décidément fâché avec ton correcteur orthographique.
Je l'ai désactivé. Je l'ai renvoyé.
Voilà, donc, et comment est-ce qu'on arrive à convaincre un éditeur que c'est un bon style, tu vois, enfin, qu'il faut y aller, quoi.
Ben en fait, c'est justement, mais comme à mon avis, n'importe quel parti pris d'écriture, quand il est assez gros, assez visible et assez compréhensible, le tri se fait tout seul. Et sur ce genre de truc, parce que ça touche à l'oralité, et surtout en français, c'est mal l'oralité, tu vois, de parler comment, enfin d'écrire comme on parle, ou d'essayer de capter le rythme d'une langue à l'écrit, c'est vrai qu'on est encore très très corseté, à mon avis, en France là-dessus. Je veux dire, ça, c'est des problématiques contre lesquelles Raymond Queneau, il y a 80 piges, était déjà en but. Et lui disait justement qu'il fallait passer à la vitesse supérieure et essayer d'écrire un petit peu comme on parlait, ou du moins de faire parler nos personnages comme ils parleraient dans la vraie vie. Et malgré ça, en fait, c'est même peut-être parce que à l'époque, on acceptait, on passait à Monsieur Queneau certaines fantaisies orthographiques, etc. Maintenant, c'est dur. Donc il y a d'une part les éditeurs qui disent non, jamais de la vie. En plus, vous nous avez foutu un Français d'origine maghrébine en personnage principal. Donc, enfin, c'est pas dit, mais on sent bien que c'est pas super sexy pour beaucoup d'éditeurs et d'éditrices. Et puis, il y a des timbrés comme chez Asphalt qui disent, qui vous parlent d'autres problématiques. Il y a d'autres trucs qui leur posent problème, mais c'est seulement à la deuxième ou troisième séance de travail. C'est moi-même en fait qui leur a dit, mais on est d'accord sur le style, vous allez pas m'emmerder sur les. Non, c'est très bien, ça nous va. Voilà.
C'était quoi les problématiques
hein? Problématiques, c'était. La plus grosse problématique qu'on a vue, c'était quand ça. Ben forcément, quand ça touche un petit peu au racisme et. Un petit peu à Charlie aussi, vu qu'il y a deux, trois trucs. Le personnage principal est pas spécialement Charlie. Il n'est pas du tout Daesh, mais il n'est pas spécialement Charlie. Et comme il est dans un monologue, il n'a aucun mal à se le dire. Et puis, c'est vrai qu'à une ou deux ou trois reprises, alors que lui-même n'arrête pas de se plaindre d'une sorte de racisme anti-maghrébin ou anti-français d'origine maghrébine, anti-noir, anti-juive, anti-tout ce qui n'est pas franco-français de souche, comme certains disent, lui n'est pas à l'abri non plus de ces très brefs instants de racisme contre les fonctionnaires d'origine antillaise, par exemple. Il y a un passage qui me revient, mais c'est très très bref. Et il y a eu des questions là-dessus. Après, moi, mon point de vue, il était assez clair là-dessus. C'était, bah voilà, on n'est pas. Personne n'est exempté de racisme, et même quelqu'un qui a le cœur à sa place, etc., peut aussi dire de la merde, dire des conneries, et avoir un certain nombre de préjugés dont il a un peu du mal à se défaire.
Vous êtes bien sur Radio G 101.5 FM. C'est Calibre 58, l'émission qui vous sort du noir. On délaisse Dinis Gallos pour retrouver Luc et sa chronique. On n'achève pas les classiques. Saura-t-il réveiller la bête qui sommeille en nous? Mystère.
Bien, Julien, en me confiant cette chronique, tu m'as demandé de parler de romans courts, secs et captivants. Eh bien, je t'en ai trouvé un de romans courts, secs et captivant. Et accroche-toi bien, parce que là, c'est un roman à gerber, comme on dit trivialement. Ça s'appelle La bête qui sommeille, et c'est de Don Tracy. C'est un roman publié en 1937 sous le titre How Sleeps the Beast, et paru dans la série noire sous le titre La bête qui sommeille. Cela se passe dans le Maryland, dans une petite ville côtière de la baie de Chesapeake. Tout d'abord, il faut comprendre le tableau. Kitty est une prostituée qui, plus jeune, a déniaisé Al Purvis, fils de bonne famille, parti faire des études mais revenu au village où il vit avec sa fiancée. Kitty est retrouvée morte sur un chemin, sans doute a-t-elle été violée. Jim, un jeune noir accusé du meurtre, est l'ami d'enfance de Al Purvis, car il l'a sauvée un jour de la noyade. Le shérif, qui doit être réélu l'année suivante, et la foule. Avec ces éléments, Don Tracy va déclencher l'apocalypse. Nous sommes en 1937 dans le Maryland, état historiquement plutôt démocrate et fidèle à l'Union pendant la guerre de sécession, mais la population noire y est très fortement représentée. Le shérif organise la recherche du meurtrier de Kitty avec l'aide de la population. Dès le début du roman, l'adjoint du shérif dit « On se mettra à la recherche du nègre qu'a fait le coup. » Parce que pour la population, ce ne peut être qu'un noir le meurtrier. Jim, ivre mort, inconscient dans un champ, va être capturé parce qu'il est couvert de sang. Cependant, jamais on ne saura si c'est lui qui a commis le crime. Déjà les coups pleuvent, coups de pied, coups de poing. Le shérif retient les violences et Jim est mis en cellule. Et ce qu'on craignait lors de la saisie de Jim se met en place. Un agitateur, toujours appelé le type de New York, va faire monter la pression. La population va se mettre en branle pour lyncher Jim. Elle va aller à la prison, bousculer le shérif et extraire Jim de sa cellule. Là, les gars des îles, une milice, vont s'arroger le pouvoir d'organiser le lynchage. Jim va être emmené dans une grange. Cloué, j'ai bien dit, cloué à un des murs et le feu va être mis à la grange. Le chef de la milice lui laisse un couteau. Jim va réussir à se libérer, fuir de la grange, mais dès qu'il en sortira, va être abattu par les miliciens. Mais ça ne s'arrête pas là. Son corps va être traîné, accroché par une corde jusqu'au centre-ville. Être le jouet de la foule dans un délire sadique et être pendu à un lampadaire. Pendant ce temps, Al, son ami, larmoie auprès de sa fiancée et se décide tardivement à aller en ville pour tenter de sauver son ami. L'agitation a fait du bruit et des militants communistes se dirigent vers la ville pour rappeler les droits à l'égalité des Noirs. L'adjoint du chef communiste dit en lui montrant la foule déchaînée « Ils sont là, tes travailleurs, il n'y a pas un seul capitaliste là-dedans. » Un journaliste va lui aussi être chassé parce que les journaux défendent les droits des Noirs. Et apothéose, la garde nationale qui est envoyée va être submergée par la foule et ridiculisée. Et quelques jours après, la vie a repris son cours, normalement. J'ai dit que ce roman était à gerber parce que Don Tracy ne nous fait pas de cadeau. Il n'y a aucun angélisme dans son livre. Il décrit une foule furieuse, comme une machine infernale qui s'auto-alimente. On connaît le mot lynchage, mais lui le montre dans toute son horreur. Et il montre la vanité, ou plutôt la lâcheté des hommes. Le shérif, qui sait ce qui va arriver, qui devrait appeler des renforts, mais qui ne le fait pas parce que cela pourrait remettre en cause son élection. Le journaliste, qui veut avoir un scoop, mais qui est obligé de se cacher pour ne pas être pris à partie. Les militants du Parti communiste, idéalistes, mais qui sont incapables de prendre la parole. La garde nationale, dont les chefs craignent que la situation dégénère et qui empêche ces hommes de se servir de leurs baïonnettes. C'est de l'hyper-violence, mais jamais complaisante. Donc, bien loin d'un pauvre gentelé dans « Mangez-moi », roman lui aussi à gerber, mais pour de bien mauvaises raisons. « La bête qui sommeille » est un roman révoltant et salutaire. Vous devez impérativement le lire et le faire lire, mais je vous préviens, vous ne dormirez pas après. Ça s'appelle « La bête qui sommeille », c'est de Don Tracy et c'est publié chez Folio.
Après une telle chronique, il me paraît opportun de passer un peu de musique. Et soyons fous, demandons à Denis Gallows, l'auteur d'Hakim qui vient de sortir aux éditions Asphalte, ce qu'il a dans sa musette.
Est-ce que tu as le temps de réfléchir à une musique? Qu'est-ce qu'on va te sortir?
Tu veux que je te ressorte ta playlist sur...
Alors, il y a deux trucs. Il y a... Il y a El Mar Méditerranée de Ryuichi Sakamoto qui est sur la playlist, qui est un monument. C'est le truc qu'il a fait pour les Jeux Olympiques de Séville, je crois. Je sais plus. Ou de Barcelone. Mais ça se retrouve sur la playlist, qui est un monument. Et qui.
Pourquoi c'est...
Déjà parce que c'est un super beau morceau de musique et de composition qui a à peu près tout. Il y a Sakamoto, il y a des passages qui sont très 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 barrés et le final est absolument grandiose. Et puis il y a cette notion de de mer Méditerranée. C'est marrant parce que il y a quelques mois, je crois que c'était pendant le confinement, j'étais tombé sur un article. Un article d'un, je crois que c'était The Guardian, où c'était une interview du maire. Alors je suis désolé, je sais vraiment pas sourcé. L'interview d'un maire d'une ville en Sicile qui avait une politique d'accueil des migrants. C'était une interview et le mec était complètement. Je suis resté en arrêt face à l'article. Ça allait à l'encontre de tous les discours qu'on avait. Et lui disait, alors c'était, il mettait pas en avant. Alors déjà, il disait pas les migrants chez eux, etc. On va d'abord s'occuper de nos problèmes. Alors que le mec est en Sicile, en Italie, et voilà. Ils ont quand même pas mal de problèmes. Il mettait pas en avant une vision gentille des droits de l'homme, etc. Il disait juste, attendez, c'est nos frères. Et il disait, je crois que c'était ça la phrase. Parce que la mer Méditerranée, c'est pas une mer, c'est un continent. Et lui considérait que tous les pays satellites de cette mer, tous les tenants de cette culture méditerranéenne, en fait, formaient un continent, et que lui, sicilien, avait beaucoup plus à voir avec des gens qui fuyaient des massacres ou qui fuyaient la pauvreté de l'autre côté de la mer, lui et les habitants de sa ville, qu'il avait élu, et ceux qu'il n'avait pas élu aussi, qu'il avait plus de points communs avec eux qu'avec les gens qui du nord de l'Italie, en fait, culturellement, et puis dans le vécu, et puis dans le... Et je crois que c'était... Je crois que ce morceau de Sakamoto, en fait, qui met l'accent sur la mer Méditerranée, c'est pas mal au centre aussi du personnage d'Hakim, qui est très méditerranéen, même s'il est parigo jusqu'à la moelle des os. Et voilà, et puis c'est un super morceau, et puis je pense à certaines... C'est le seul morceau qui me semblait correspondre, enfin il y a des morceaux de ce morceau qui semblaient parfaitement correspondre à des scènes de fuite ou des scènes de stress qu'il peut avoir dans le bouquin.
Vous écoutiez El Mar Méditerranée de Ryushi Sakamoto, un choix de Dinis Gallos. Nous discutions tout à l'heure du personnage d'Hakim. Attardons-nous un petit peu sur son écriture et sur ses sources d'inspiration.
Ouais, évidemment, il y a des trucs, il y a certains trucs, il y a des parts de moi qui sont vraiment anecdotiques pour rajouter un petit peu de densité et d'ancrage dans le réel. Il y a des trucs que j'ai vécu. Il y a parmi les histoires rigolotes ou les histoires un petit peu plus ou moins sordides ou plus ou moins dangereuses, etc. Il y a des trucs que j'ai pu vivre. Il y a des trucs qui ont pu être exagérés. Il y a des trucs que des amis ont pu me raconter. Et il y a aussi une grosse part d'invention.
Tu veux dire par là que le miroir au plafond, c'est un truc que t'as vécu?
Non. Pas cette partie de l'histoire. Mais d'autres parties de l'histoire, oui, par contre. D'autres parties de l'histoire sont vraiment arrivées.
D'accord. Il y a quelque chose quand même de... Alors, je dirais pas de surprenant dans le roman, mais quelque chose qui m'a marqué, c'est l'absence de la femme. Parce que aussi bien Hakim, il abandonne sa femme, sa compagne, au début du roman, et puis pour vivre son roadbook, là.
Ouais.
Et il va rejoindre Cus, qui...
Mais c'est encore une fois, hein, c'est hyper important. Mais enfin, c'est ta vision des trucs, mais moi, de ma vision, c'est vraiment... C'est... La femme, qui est sa femme, qui décide qu'elle en a ras le cul, en fait, qu'elle préfère aller bronzer avec les gosses dans sa belle famille, qu'elle trouve très sympa, et que son homme, voilà, reste une semaine tranquille pour faire son truc, qu'il arrête de faire chier tout le monde.
Moi, j'étais resté sur le je vous rejoins dans une semaine, et qui était j'abandonne femme et enfant pour pouvoir.
C'est son ressenti à lui, il a l'impression d'abandonner, mais en vrai, je crois que c'est plus eux qui se cassent. Et justement, juste au moment où il leur dit au revoir, lui, il continue à. Ils passent la douane, lui, il continue à les regarder, à vouloir faire encore des mouvements de main, et leur dire au revoir. Les gamins s'en foutent complètement, le douanier fait des petites blagues, etc. Ils sont déjà.
C'est vrai qu'il y a des choses dans le regard où elle est un peu fâchée.
Oui, en plus, voilà. En plus, il est chiant quand il part, donc. Donc voilà, mais bref, pardon.
Oui, donc je dis, cette femme-là est absente. On a le personnage de Cus qui est donc l'ami, et lui, il est tout seul. Il est tout seul sans être tout seul, mais elle n'est pas là non plus dans le roman. Donc finalement, on a un roman qui est un peu, on va dire, en deux parties. À un moment donné, tu as un long soliloque, long monologue, et solitaire, enfin, par essence. Mmh. Et puis après, tu as une espèce de non-dialogue qui s'instaure entre deux. Ils savent pas trop ce que vivent les uns les autres, même si il y a des moments très sensibles où il y a de la compréhension et où, par exemple, le narrateur explique à Cus que de toute façon, s'il avait présenté femme et enfant, l'autre il se serait fait chier au bout de 3 secondes et il est obligé de constater qu'il se serait fait chier au bout de 3 secondes. Mais il y a ce problème là de cette interaction là entre les personnages, mais la femme est toujours la femme globalement est absente dans le roman.
Mmh. C'est pas un truc qui était spécialement voulu. Après,
c'est peut-être une question bête. Hein.
Non. Mais après, En fait, j'ai réfléchi à ça après coup. Je me suis dit, c'est vrai que c'est très masculin. J'ai surtout réfléchi à ça parce que les idées de bouquins sur lesquelles je suis en train de travailler aussi, il n'y a pas trop de nanas. Il y a un projet de roman, c'est pas un projet de roman, c'est un roman que j'ai fini mais qui était vraiment complètement barré, qui est resté dans les tiroirs. Les 2-3 éditeurs à qui j'ai proposé, qui sont censés faire partie des plus avant-gardistes, etc., ont dit non, mais c'est non, on va pas le sortir. Ça va, on est. Hein, ça va. Là, il y avait une grosse part des personnages féminins. Le point commun de ces trois-là, de Gokhan, de Hakim et de ce projet-là, en fait, qui n'est pas sorti, peut-être qu'il sortira un jour, sous une forme ou une autre, c'est quand même la minablerie des mecs. Dans Gokhan, il y a un personnage féminin fort, Nina, qui botte des culs du début jusqu'à la fin, qui se fait marcher dessus par personne, une ribambelle ou bien de tocard qui s'assume, Jean-Luc Ponty, et qui s'en sort bien, ou bien de tocard qui essaie de se donner une contenance bien patriarcale et bien phallocrate, etc., et qui finissent avec des balles dans la peau. Et dans Hakim, c'est un peu... On a... comment dire, il y a peut-être une valorisation de la jante féminine par la dépréciation de la jante masculine, en fait. Parce qu'on a Hakim qui est complètement flippé par... Voilà ce que tu disais au début, on peut aussi se dire, mais il a une attitude complètement absurde vis-à-vis de ce conducteur de rame de RER et vis-à-vis de ce paquet potentiellement piégé ou pas. Et puis son pote d'enfance, Russ, il est pas non plus. Voilà, il a ses côtés très très minables en fait. En tout cas, c'est pas, à mon sens, c'est pas une image super reluisante de la masculinité que je donne à voir, mais qui me semble. Moi qui m'intéresse. Qui m'intéresse. Justement, pas faire des super-héros et pas faire ce genre de trucs. Et après. Est-ce qu'on aurait pu causer... Est-ce qu'on aurait pu... Moi, j'aurais pas pu caser un personnage féminin fort là-dedans parce qu'elle aurait pris la place, en fait. Je me connais. Et déjà, essayer de caser un truc... Quoi ? Parce qu'il y a MeToo ? Parce que Despentes a dit un truc ou ça m'intéresse pas. Et c'est surtout l'histoire que j'ai à raconter. Et ma foi, s'il n'y a pas de nana, il n'y a pas de nana. J'estime avoir écrit assez d'histoires, donc pas toutes publiées, mais assez d'histoires où il y avait, quand il y avait des personnages féminins forts, il y avait des personnages féminins forts. Quand il y a des personnages masculins, il y en a, et il se trouve qu'ils sont jamais forts, en fait.
Maintenant l'heure de débattre autour d'un film comme nous l'annonce cette petite musique méconnue. Nous allons donc aujourd'hui causer d'un long métrage de Richard Quinn, Du plomb pour l'inspecteur. Il ressort chez Sidonie dans la collection Film Noir. Je laisse la parole à Luc après un petit extrait sonore et Toups nous dira par la suite pourquoi il a aimé ce film.
You remind me of someone. Haven't you ever met me before?
Hundreds of times.
I don't get it.
And you won't, so try someplace else.
No, you've got the wrong idea. I'm not just fresh. I'm sure that I've met you someplace. What?
Will there be anything else, sir?
Julien, il faudra un jour répondre à cette question. Pourquoi les traductions des titres de films étrangers en français sont souvent si ridicules? C'est le cas de Pushover de Richard Quine, tourné en 1953, devenu en français Du plomb pour l'inspecteur. Or donc, les amis, c'est ce film que je vais vous présenter, que je préfère définitivement appeler Pushover. Deux gangsters cambriolent une banque. Superbe scène d'ouverture tournée sans aucun dialogue. Paul Sheridan, un inspecteur de police, impressionnant Fred McMurray, est chargé de se laisser séduire par l'ami d'un des gangsters pour que la police puisse le capturer et récupérer le magot. Beaucoup, mais alors beaucoup de dollars. Pas de chance pour l'inspecteur, l'ami en question, Lona McLean, est joué par Kim Novak. Et il va être séduit par Kim Novak, mais comment peut-il en être autrement quand, lors de la première rencontre, on la voit dans sa robe en lainage blanc ? Bravo le respect du code Hays, mais séduit aussi par le magot. La police met Lona McLean sous surveillance. Son téléphone est sur écoute, son appartement surveillé d'un appartement en face, des policiers en faction au pied de l'immeuble. Et le film raconte la descente aux enfers de Paul Sheridan. On va le voir basculer progressivement, d'abord incapable de résister au charme de Lona McLean, qui le lui rend bien, et puis se découvrir vénal, et être conduit à poser des actes irrémédiables, pris dans un enchaînement infernal. Faisant partie des équipes de surveillance, il joue donc un double jeu, usant d'une série de subterfuges, faisant croire qu'il est là où il n'est pas, jusqu'à la fin qu'il saurait dommage de divulgager, mais que l'on devine nécessairement. Film noir par excellence, il en adopte tous les codes. Noir et blanc profond, tous les hommes sont en costume-cravate et portent un chapeau, monstrueuses voitures américaines, on est dans les années 50, beaucoup de scènes de nuit. Richard Keane est un de ces cinéastes comme Hollywood en a connu beaucoup. Il a joué comme comédien dans pas moins de 23 films, mais en tant que réalisateur, sa filmographie compte pas moins de 31 films en 32 ans de carrière. Il a touché à tous les genres, du film noir en passant par la comédie pour finir par le slapstick. Une filmographie que je qualifierais de hétéroclite. En fait, l'intérêt du film réside dans la qualité du jeu de Fred McMurray. Kim Novak, à part le fait d'être belle, semble plutôt insipide. Julien, il faudra un jour répondre à cette question: pourquoi les traductions des titres de films étrangers en français sont souvent si ridicules? C'est le cas de Pushover de Richard Keane, tourné en 1953, devenu en français Du plomb pour l'inspecteur. Or donc, les amis, c'est ce film que je vais vous présenter, que je préfère définitivement appeler Pushover. Deux gangsters cambriolent une banque. Superbe scène d'ouverture tournée sans aucun dialogue. Paul Sheridan, un inspecteur de police, impressionnant Fred McMurray, est chargé de se laisser séduire par l'ami d'un des gangsters pour que la police puisse le capturer et récupérer le magot. Beaucoup, mais alors beaucoup de dollars. Pas de chance pour l'inspecteur, l'ami en question, Lona McLean, est joué par Kim Novak. Et il va être séduit par Kim Novak, mais comment peut-il en être autrement quand, lors de la première rencontre, on la voit dans sa robe en lainage blanc? Bravo le respect du code Hays, mais séduit aussi par le magot. La police met Lona McLean sous surveillance. Son téléphone est sur écoute, son appartement surveillé d'un appartement en face, des policiers en faction au pied de l'immeuble. Et le film raconte la descente aux enfers de Paul Sheridan. On va le voir basculer progressivement, d'abord incapable de résister au charme de Lona McLean, qui le lui rend bien, et puis se découvrir vénal, et être conduit à poser des actes irrémédiables, pris dans un enchaînement infernal. Faisant partie des équipes de surveillance, il joue donc un double jeu, usant d'une série de subterfuges, faisant croire qu'il est là où il n'est pas, jusqu'à la fin qu'il saurait dommage de divulgager, mais que l'on devine nécessairement. Film noir par excellence, il en adopte tous les codes. Noir et blanc profond, tous les hommes sont en costume-cravate et portent un chapeau, monstrueuses voitures américaines, on est dans les années 50, beaucoup de scènes de nuit. Richard Keane est un de ces cinéastes comme Hollywood en a connu beaucoup. Il a joué comme comédien dans pas moins de 23 films, mais en tant que réalisateur, sa filmographie compte pas moins de 31 films en 32 ans de carrière. Il a touché à tous les genres, du film noir en passant par la comédie pour finir par le slapstick. Une filmographie que je qualifierais de hétéroclite. En fait, l'intérêt du film réside dans la qualité du jeu de Fred McMurray. Kim Novak, à part le fait d'être belle, semble plutôt insipide.
Alors, pour moi, du plomb pour l'inspecteur, c'est l'archétype décalé et intelligent du film noir. Le film propose avant tout deux trajectoires opposées, une tournée vers le mal et l'autre lumineuse. Je ne reviendrai pas sur l'intrigue, Luc l'a très bien résumé. En revanche, la thématique de l'amour comme spirale criminelle, même si elle est éculée, a encore de beaux jours devant elle. Dans ce film, on constate avec effroi les deux trajectoires omniprésentes et diamétralement opposées. Contrairement à ce que l'on pourrait attendre, la femme fatale incarnée par Kim Novak, dont c'est le premier grand rôle qui la conduira jusqu'à Vertigo. D'Alfred Hitchcock, ne va pas manipuler l'inspecteur Sheridan. Pire, elle tentera de le convaincre de faire une croix sur le butin et de s'échapper avec elle. Sheridan, c'est Fred McMurray, star du grand écran, immortalisé dans « Assurance sur la mort » de Billy Wilder, dont ce film est à rapprocher. Le duo fonctionne à merveille, régi par la caméra amoureuse de Richard Quinn. Il faut écouter les bonus de Bertrand Tavernier et de François Guérif, mais également découvrir la biographie de cet homme qui a malheureusement conduit à la mort Susan Peters, sa première épouse, avant d'être soudainement abandonné par Kim Novak et de sombrer dans un alcool suicidaire. Il filme ici avec beaucoup de maîtrise et d'ingéniosité la tension grandissante. Il s'amuse d'un pianiste de jazz dans un bar. Il joue admirablement avec les lumières et les ombres dans les rues. Et il dirige talentueusement ses acteurs à qui sont offerts des dialogues finement ciselés et souvent concis à son flic. C'est simple et efficace et c'est porté par des acteurs talentueux. Que demander de plus ? Alors, les amis, votre verdict ?
Eh oui, Julien et Toups. À trop respecter les codes, on tombe dans la convention. Et Richard Quinn y saute à pieds joints dans Pushover jusqu'à la caricature, pas aidé par une musique envahissante et pour le moins redondante. En 84 minutes, tout est dit, certes, mais tout est trop bien dit.
J'ai eu l'occasion de vivre une année aux États-Unis dans ma jeunesse folle et j'étais surpris chaque semaine de voir le nombre incalculable de navets qui sortaient chaque semaine au cinéma. Mais des trucs tellement pourris que c'était inexportable et peut-être même, c'était même pas montrable au peuple américain. Mais en tout cas, ça sortait toutes les semaines. J'étais vraiment très surpris. Parce que, à côté de ça, j'avais toujours en regard de cela, la vision française de me dire le cinéma américain, puis on fait le festival de cinéma américain à Deauville, parce que le cinéma américain, quand même, le cinéma américain. Et puis moi, je voyais des navets qui sortaient chaque semaine. C'était incroyable. Et puis pas en petite quantité, hein, en très, très, très grande quantité. Je ne dis pas ça pour dire que ce film est un navet. Ce n'est pas un navet. Il n'a absolument rien d'un navet. C'est simplement que je pense que, comme tous les grands artistes, ils ont besoin d'en faire énormément. J'avais vu un reportage sur Giacometti, sculptant l'homme qui marche, et puis détruisant ce qu'il était en train de faire avec la terre. Il le travaillait à la terre et au ciseau, et puis détruisait systématiquement, alors que l'œil non exercé voyait déjà la perfection du style Giacometti. Mais lui, il savait ce qu'il cherchait, et tant qu'il n'obtenait pas ce qu'il cherchait, il détruisait et il recommençait. Je pense que c'est un peu le même principe qui fait que de temps en temps on peut admirer un film comme Tenet, Christopher Nolan, et puis pour les plus récents, et puis évidemment des chefs-d'œuvre qui restent depuis toujours, des Casablanca, des... Voilà.
Ensuite, l'émission qui vous sort du noir, et c'est sur Radio G. Maintenant, c'est l'heure d'une petite chronique jazz éclairante de Toups. Ça jazz, baby?
Bonjour Julien, ou peut-être bonsoir. jazz, certes. Ça jazz plutôt nocturne en ce moment. En effet, en ce qui me concerne, j'ai choisi de rester fidèle à cette liste égrenée par Samuel L. Jackson dans le film Do the Right Thing, un film de 89, film de Spike Lee. Samuel Jackson y campe le rôle d'un animateur radio qui est fan de musique et qui fait une dédicace sublissime à la fin de laquelle il remercie tous les compositeurs, auteurs, interprètes d'avoir éclairé nos vies par leur musique. Dans cette liste qui tourne derrière moi, on peut entendre les noms de Thelonious Monk et de Dexter Gordon. Autour du minuit, et bien voilà le rapport. Thelonious Monk est le compositeur de Autour de minuit, Round Midnight, et Dexter Gordon est l'interprète, acteur, saxophoniste du film Autour de minuit, film de Bertrand Tavernier, 1986. Dexter Gordon aura même un prix d'interprétation pour le personnage qu'il campe, le rôle d'un saxophoniste qui a eu des problèmes avec la drogue et les boissons, et puis qui s'en sort quand même grâce entre autres à un petit français, un petit Froggy, un petit Frenchie qui est fan de lui, fan de musique jazz et de ce saxophoniste. Question que je pose, comment être insensible à la chaleur de ce son, à la profondeur, à la chaleur de ce son, et en même temps à ce relâché majestueux, cette façon de jouer en arrière, toujours derrière le tempo, jamais dessus, toujours un tout petit peu derrière, ce qui oblige le section rythmique à pousser devant, à jouer devant, pour qu'il n'y ait pas cette sensation de tempo qui dégringole. Et à l'arrivée, on a cette sensation de nonchalance incroyable, alors que le tempo est rapide, il est même très rapide. La façon dont s'enchaînent les phrases, c'est fabuleux, c'est vraiment la musique classique du 20e siècle, c'est magnifique. Et un très très grand interprète. Qu'on est tous d'accord pour dire que c'est un monsieur qui connaissait son instrument, qui savait ce que c'était que jouer du saxophone. Bien. Alors, je n'avais pas l'intention de la faire à l'envers aux auditeurs de Radio G, bien entendu, et surtout pas aux éditeurs de Calibre 58 qui ont l'oreille plutôt affûtée côté jazz. Donc, effectivement, ce morceau qu'on vient d'entendre ne s'appelait pas Round Midnight, mais Cheesecake. cette fameuse invention des Américains qui parfois nous fait pâlir de jalousie, en tout cas qui nous fait tirer la langue. Rien qu'à l'évocation, on a déjà envie d'en manger. Bien. Eh bien, quant à Round Midnight, ça va être une version par un autre fan de cette musique de jazz qu'on trouve dans la personne du Brésilien Hermeto Pascoal.
En série, on vous conseille fortement la série Perry Mason produite par HBO. 8 épisodes noirs qui reviennent sur les débuts de l'avocat en 1932 à Los Angeles. Il enquête sur l'enlèvement et la mort d'un nourrisson et doit défendre sa mère accusée par un procureur pas si franc du collier que ça. Vous trouverez dans cette série tout ce qui a fait le charme du film noir avec des thématiques déjà d'actualité comme le féminisme, l'homosexualité, la corruption et bien entendu le racisme. La série est joliment réalisée avec une image du tonnerre. Perry Mason, c'est Matthew Rhys et c'est Fawzer de Peter Falk avec un œil qui a tendance à fermer plus que l'autre. On apprécie également le jeu de Juliette Rylance et de Chris Schalk. Les amateurs de la série littéraire et bande dessinée Enola Holmes feraient bien, eux, de s'intéresser au film qui est sorti sur Netflix. Totalement dans l'esprit, il est à regarder en famille. La petite sœur de Sherlock et Mycroft Holmes est interprétée avec classe et fougue par Millie Bobby Brown. Là aussi, il sera question de féminisme. La fin annonce une suite qui sera la bienvenue. Les rendez-vous de l'histoire de Blois ont décerné leur prix du roman noir historique à Anne-Laure Kerr pour Richesse oblige chez Métellier. L'auteur du Daron s'intéresse de près aux coulisses d'une grande famille d'industriels au 19e siècle. L'association 813 a, elle, décerné ses 5 trophées. Nous vous invitons à les découvrir sur leur blog. Et puis, Kino est mort. Le créateur de Mafalda nous a quittés et comme elle, nous sommes tous un peu orphelins d'un virtuose du dessin qui manie avant tout l'absurde. Et oui, l'humour noir du dessinateur argentin nous manquera. On remercie Denis Gallos pour avoir animé cette émission. Je vous rappelle le titre de son roman, Hakim, c'est chez Asphalt. Pour retrouver le sommaire de l'émission Calibre 58, deux adresses, le site de Radio G et sa page dédiée à notre émission, et la page Facebook de Calibre 58. On vous dit à dans 15 jours, d'ici là, cultivez-vous bien.
C'est déjà fini? Bon, alors, au revoir les amis.
Au revoir.
G 101.5 FM. Oh,